VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 4 août 2023. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ont défini les contours d'une éventuelle intervention militaire au Niger.
La fuite en avant ne peut pas être délétère et ne sera pas délétère.
À l'approche de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO à la junte de Niamey, nous ferons l'état des lieux dans la partie magazine avec Ahmed Ould Abdallah, ancien fonctionnaire de l'ONU. La mission des Nations Unies au Mali a transféré aux autorités nationales un premier camp dans le cadre de son retrait alors que plusieurs soldats maliens ont été tués dans une embuscade djihadiste. L'Éthiopie déclare l'état d'urgence après des affrontements armés dans la province de l'Amara. 3 ans après, le Liban rend hommage aux victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Les chefs d'état-major des armées de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont élaboré un plan en vue d'une possible intervention militaire au Niger, a annoncé aujourd'hui Abdel Fattah Moussa, le commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques et de la sécurité. La CEDEAO avait envoyé une délégation à Niamey, mais celle-ci est repartie du Niger sans qu'aucune avancée n'ait été observée. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Conduite par l'ancien président nigérien Abdul Salami Aboubakar, la délégation de la CEDEAO n'a pas rencontré le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, ni le président renversé Mohamed Bazoum. Ils se sont entretenus à l'aéroport avec des militaires putschistes. La CEDEAO, qui a imposé des sanctions à Niamey, a donné jusqu'à ce dimanche aux putschistes pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'utiliser la force. Les putschistes promettent une riposte à toute agression. Colonel-major Amadou Abdraman, membre du CNSP.
La CEDEAO étant impersonnel, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus.
Une réunion des chefs d'État-major de la CEDEAO s'est achevée ce soir à Abuja. Ils disent avoir défini les éléments d'une éventuelle intervention, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où la force de la CEDEAO va être déployé.
On veut la paix.
Ce matin, des manifestants originaires de plusieurs pays ouest africains se sont réunis à Niamey pour protester contre toute intervention militaire.
Il faut privilégier les voies diplomatiques. Il y a toujours des solutions diplomatiques pour résoudre ce genre de problème.
Nous, on veut la paix. Parce que dans ce pays-là, nous, on vit en symbiose. Tout le collectif de communautés de l'espace et de Yahoo résident au Niger vit très bien avec les autorités nigériennes. Et nous, on soutient les nouvelles autorités. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
À Tawa, dans l'ouest du Niger, des centaines de personnes se sont rassemblées pour apporter leur soutien au président Mohamed Bazoum et exiger sa libération. Se qualifiant d'otage dans une tribune publiée par le Washington Post, M. Bazoum a mis en garde contre les conséquences dévastatrices du coup d'État pour le monde et le Sahel qui pourrait passer, selon lui, sous l'influence de la Russie par le biais de Wagner.
Il a mis fin aux fonctions des ambassadeurs.
Les putschistes ont limogé les ambassadeurs du Niger aux États-Unis, en France, au Togo et au Nigeria. Ils ont dénoncé les accords de coopération militaire avec la France qui a un contingent militaire de 1 500 soldats déployés au Niger. Paris soutient que seules les autorités nigériennes légitimes ont le pouvoir de revenir sur ces accords. Les programmes de RFI et France 24 ont été interrompus au Niger. Les militaires ont décidé de lever le couvre-feu instauré le 26 juillet, jour de leur coup d'État.
La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, a transféré aux autorités nationales un premier camp dans le cadre de son retrait d'ici à la fin de l'année dans ce pays en proie au djihadisme et aux violences de toutes sortes. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi sa porte-parole, les précisions de John Lydon.
La MINUSMA a remis jeudi aux Maliens le camp de Gossagou, un village du centre proche de Bankas, a indiqué Fatoumata Kaba, sans plus de précision, notamment sur les effectifs. La MINUSMA applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013. À la demande de la junte arrivée au pouvoir par la force en 2020, le retrait des quelques 11 600 soldats et 1 500 policiers des dizaines de nationalités présents depuis fin juin au Mali doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. Ogossagou, occupé par un contingent sénégalais, était l'un des camps de la MINUSMA situé en dehors des villes. La mission onusienne, dont l'une des tâches consistait à protéger les civils, a installé là une base entre la partie Peul et Dogon du village en 2020, après le massacre des 160 Peul en 2019.
L'Éthiopie déclare l'état d'urgence après des affrontements armés en région Amhara. La région a enregistré ces dernières semaines des combats entre l'armée et des combattants locaux. Davantage avec Alexandrine Olognon.
La décision a été prise à l'unanimité lors d'une réunion du Conseil des ministres durant laquelle a été évoquée la situation en Amhara. Toutefois, le texte ne précise pas si cet état d'urgence s'applique à la seule région ou à l'ensemble du pays. Ces dernières semaines, divers affrontements armés ont opposé l'armée et des combattants de milices locales dans une dangereuse escalade de violence. Plusieurs ambassades occidentales, notamment de Grande-Bretagne et d'Espagne, ont recommandé ces derniers jours à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans la région en raison de la violence et de l'instabilité qui y règne. Les tensions dans la région ont débuté après que le gouvernement a annoncé mi-avril vouloir démanteler les forces spéciales, des unités paramilitaires créées par de nombreux États régionaux depuis une quinzaine d'années. Les nationalistes amhara avaient estimé que le gouvernement veut affaiblir leur région.
L'ONU a annoncé aujourd'hui la fermeture de son bureau des droits de l'homme en Ouganda après le refus de Kampala de reconduire un accord ayant permis ses activités dans ce pays africain depuis près de 20 ans. Le bureau des Nations Unies dans la capitale ougandaise fermera officiellement ses portes à partir de demain samedi, les antennes de Gulu et de Moroto ayant déjà fait de même ces dernières semaines, a précisé l'ONU dans un communiqué. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit préoccupé par la situation des droits à l'approche des élections ougandaises de 2026, à la lumière de l'environnement de plus en plus hostile dans lequel opèrent les défenseurs des droits humains, les acteurs de la société civile et les journalistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, le Liban du moins, marque ce vendredi le troisième anniversaire de l'explosion meurtrière au port de Beyrouth, sans grand espoir de parvenir un jour à la vérité sur ce drame et d'en juger les responsables. Les pressions politiques ont entravé le cours de la justice. Éric Manirakiza.
Le collectif des familles des victimes qui se bat depuis 3 ans pour réclamer justice a appelé les Libanais à venir vêtu de noir participer à une manifestation dans l'après-midi qui doit se diriger vers le port. C'est une journée de deuil et de protestation contre l'État libanais qui politise notre cause, dissimule la vérité et s'ingère dans l'action de la justice, a déclaré Rima Zahed, qui a perdu son frère Amine, un employé du port. Les autorités libanaises ont refusé une enquête internationale réclamée par les familles des victimes et sont accusés d'avoir entravé l'enquête locale. Le pays est en plein effondrement économique et les divisions politiques se répercutent sur le système judiciaire. Jeudi, 300 ONG dont Human Rights Watch et Amnesty International, ainsi que des familles de victimes, ont renouvelé leur appel à la formation d'une commission d'enquête internationale. Le président français Emmanuel Macron a assuré ce vendredi les Libanaises et les Libanais de son soutien. Le 4 août 2020, à 18h07, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire a dévasté des quartiers entiers de la capitale, tuant plus de 220 personnes et en blessant plus de 6500.
Le chef d'état-major de l'armée de terre des États-Unis a quitté ses fonctions ce vendredi, laissant une deuxième branche de l'armée sans l'un de ses hauts responsables à cause du blocage des nominations de militaires menées par un sénateur républicain. Plus de 300 nominations sont bloquées au Sénat depuis plusieurs semaines par Tommy Tuberville de l'Alabama, qui proteste contre les efforts déployés par l'armée pour garantir un égal accès à l'avortement à tous ses personnels. L'opposant russe Alexei Navalny a été condamné aujourd'hui à 19 années de prison supplémentaire dans le cadre d'une affaire que ses alliés lui dénoncent comme une manœuvre pour le maintenir en prison et l'écarter le plus longtemps de la politique. L'ONU a demandé aujourd'hui même sa libération. Et la Cour suprême de l'Inde a suspendu aujourd'hui la condamnation de Rahul Gandhi à 2 ans de prison pour diffamation envers le Premier ministre Narendra Modi, une décision qui pourrait ouvrir la voie à un retour au Parlement de ce chef de l'opposition. Ce descendant de l'illustre dynastie politique des Gandhi avait été condamné le 23 mars à 2 ans de
de prison pour diffamation envers M. Modi pour des propos tenus lors d'une campagne électorale en 2019. Il avait alors déclaré que tous les voleurs ont Modi comme nom de famille. Et finalement, pour les océans ont battu cette semaine un nouveau record mondial de température, laissant craindre des conséquences néfastes pour la vie marine comme pour les équilibres climatiques. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine au cours de l'ère industrielle, et cette accumulation d'énergie ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Alexandrine Ollognon.
D'abord, le Nigeria qui a entamé ce vendredi la construction d'une centrale électrique au gaz de 1350 MW près de sa capitale Abuja. La centrale indépendante de Gwagwalada qui brûlera du gaz nigérian fournira environ 11% des besoins énergétiques du pays et sera construite en trois phases, a déclaré la compagnie pétrolière nationale NNPC. Les producteurs d'agrumes sud-africains souhaitent que leur gouvernement dépose une plainte contre l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce au sujet de la réglementation de l'Union européenne sur la tache noire des agrumes qui, selon eux, menace des milliers d'emplois. Selon l'Association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe, les règles phytosanitaires de l'UE pourraient réduire de 20% les exportations d'oranges de l'Afrique du Sud vers l'Europe cette année. Enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit d'accord avec la Russie sur la nécessité d'approvisionner les pays africains les moins développés en céréales. La Turquie, qui s'emploie à rétablir un corridor sécurisé en mer Noire, espère toujours accueillir son homologue russe Vladimir Poutine en août, sans préciser de date.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rougier, bonsoir à tous.
Basketball pour commencer, l'affiche de la finale de l'Afrobasket, dame est connue.
Oui, le Nigeria va affronter le Sénégal demain samedi à la BK Arena de Kigali au Rwanda. Hier en demi-finale, le pays hôte, le Rwanda justement, est tombé devant les Super Falcons 79-48. De son côté, le Mali s'est incliné devant le Sénégal 75-65. Aujourd'hui, un match de classement pour les 5e et 8e places. L'Ouganda a battu la Guinée 85-44 et le Mozambique a défait le Cameroun 74-65.
Football, le 8e de finale du mondial féminin débute demain.
La Suisse et l'Espagne ouvrent le bal des 8e de finale à l'Eden Park d'Auckland. Toujours demain, le Japon défie la Norvège. Le premier pays africain à faire sa sortie en 8e de finale, c'est l'Afrique du Sud qui fait face aux Pays-Bas dimanche. Juste après, à suivre aussi le choc Suède-États-Unis. Le Nigeria affronte la championne d'Europe en titre, l'Angleterre, le 7 août. Le lendemain, le Maroc défie la France, un remake du mondial masculin en décembre dernier, où les Bleus ont battu les Lions de l'Atlas en demi-finale. Après l'exploit des Lions en phase de groupe, à Rabat au Maroc, c'est un mélange de sentiments de fierté, d'espoir et de revanche.
On nous souhaite un très bon courage contre l'équipe nationale de France, puisque ça dépasse le football, ça dépasse le sport, ça entre dans une revanche. Je ne peux rien dire qu'on est hyper fiers pour votre première expérience dans la Coupe du Monde. Vous arrivez jusqu'à ce niveau, bravo et bravo, bravo, chapeau, chapeau. Et c'est un message pour tout le monde, concernant la dame marocaine, la femme marocaine. Super bravo pour l'équipe marocaine, on est très fiers d'elle. Et bonne chance pour le prochain match avec la France. On espère qu'elles vont gagner. Bravo et bonne continuation.
Allez le Maroc!
La FIFA enquête après une plainte pour geste déplacé au sein de l'équipe de Zambie.
Selon plusieurs médias, ces investigations concernent le sélectionneur de la Zambie, Brice Mwape, qui aurait touché la poitrine d'une joueuse avant le match contre le Costa Rica. La fédération zambienne a affirmé qu'elle n'a reçu aucune plainte de ce type de la part d'une de ses joueuses ou officielle de la délégation qui s'est rendue à la Coupe du Monde. La police néo-zélandaise où l'équipe était basée a aussi déclaré n'avoir reçu aucune plainte. Le sélectionneur Brice Mwape a déjà été cité ces derniers mois dans le cadre de révélations sur des accusations d'agression sexuelle dans le football féminin zambien.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Une délégation de la CDAO dépêchée au Niger a quitté Niamey dans la nuit de jeudi à vendredi sans avoir rencontré le chef de la junte ou le président renversé Mohamed Bazoum. Néanmoins, les émissaires ont présenté les dernières propositions de crise, de sortie de crise de la CDAO lors d'un entretien à l'aéroport avec des militaires putschistes. Tard jeudi, la junte a dénoncé les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint Amadou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU.
Connaissant bien la région et les traditions de la région, couvre tout le Sahel, je suis surpris qu'une délégation de ce haut niveau, qui comprend le sultan de Sokoto, qui est très respecté des deux côtés de la frontière, qui comprend également comme chef de délégation le général et ancien président Aboubakar, qui n'ait pas été reçu au-delà de l'aéroport et qui n'ait pas été reçu par les leaders du coup d'État ou de la rébellion. Ça m'étonne. Deuxièmement, ça veut dire que c'est une vraie rupture, non seulement institutionnelle, diplomatique, mais aussi sur le mode social dans la région. C'est très difficile que ça soit accepté et je ne comprends pas que le général en chef n'ait pas été venu les voir. S'il ne les reçoit pas au palais, au moins les recevoir. Ça, c'est ma première réaction et je pense qu'il partageait à travers tout le Sahel.
L'ultimatum de la CDAO expire dimanche.
Je pense que le président du Nigeria, nouvellement élu, et le Nigeria eux-mêmes ne vont pas faire des déclarations tout simplement de principe ou de courtoisie. Je pense que, comme il l'a dit lors du sommet de la CDAO, comme le soutien de la plupart des présidents de région, je crois que le Nigeria ne recule pas. Et le fait qu'ils aient envoyé des délégations de haut niveau, pays qui sont frontaliers du Niger, je pense qu'ils veulent agir et qu'ils vont agir. Ils ne le souhaitent pas, mais ils vont agir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'avant la fin de l'ultimatum, il y aura un minimum de sagesse à Niamey pour reprendre contact avec le sultan de Sokoto et le général Aboubakar, en fait avec le Nigeria. Le Niger ne gagne pas à montrer de la compréhension et qui a voulu discuter. Et la fuite en avant ne peut pas être de leur intérêt et ne sera pas de leur intérêt.
Les militaires au Niger ont dénoncé les accords de sécurité et de défense avec la France. Et la France qui semble les renvoyer balader, comment présager la suite?
C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. La France, il est difficile d'accepter la dénonciation des accords par un gouvernement qui n'est pas encore reconnu par la communauté internationale. Mais l'essentiel donc est vraiment de régler ce problème de communauté. Par la CDAO et par d'abord l'ensemble de la population du Niger et surtout d'accepter cette médiation du Nigeria que je considère vitale pour tout le monde. Le gouvernement qui dénonce un accord légal n'est pas lui-même reconnu.
Amadou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La situation humanitaire dans le centre du Mali est préoccupante, notamment dans la région de Bandiagara, où des villages se vident de leur population en raison de la menace des groupes armés. Selon le maire de la commune de Balassara, plus de 2000 déplacés de cette commune se retrouvent sans abri dans la ville de Bandiagara. Cette crise a des répercussions néfastes sur la campagne agricole en cours dans la région de Bandiagara. La correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Ces déplacements massifs des populations font suite aux attaques des groupes armés dans ces localités. Comme Fatmata Kologo, beaucoup sont arrivés dans la ville de Badjangara dans des conditions difficiles.
Nous avons fui à cause de l'insécurité dans notre village. Et c'est après 4 jours de voyage que nous sommes venus à Badjangara ici. Il y a d'autres qui veulent venir, mais par faute de moyens, ils sont toujours restés au village. Vraiment, la situation est catastrophique.
Des rescapés, après avoir perdu tous leurs biens suite aux attaques, peinent à joindre les deux bouts. Aminata commence ici une nouvelle vie avec ses enfants dans les sites et sans abri.
J'ai fui avec mes enfants les mains vides. Nous sommes ici au site sans un sou. Je suis obligée d'aller cueillir les feuilles d'arbre pour chercher de quoi préparer pour nourrir mes enfants.
Depuis le début de la saison des pluies, la situation sécuritaire s'est détournée dans la région. De nombreux villages se vident de leur population sous la menace des groupes armés. Amadou Toulema, chef de village de Monobondo, raconte. Ils sont venus vers les petits soirs, très nombreux et bien armés. Quand ils sont rentrés dans les villages, ils disaient « quittez les lieux, sinon nous allons vous tuer tous ». C'est ainsi que nous avons quitté immédiatement. Mais le problème est que nous ne savons pas quelles sont leurs revendications et pourquoi ils font ça exactement. Selon le maire de la commune de Balassara, la situation risque d'avoir un impact sur la campagne agricole cette saison et lance un appel aux autorités compétentes.
Nous sommes en début d'hivernage. Les gens ont semé. Ils ont laissé derrière eux leurs semis. Et s'ils n'arrivent pas à cultiver, les paysans, ils n'ont pas d'autre activité si ce n'est pas l'agriculture. Vraiment, je lance un appel à tout le monde, à toutes les autorités compétentes pour qu'ils nous viennent en aide, pour que ces populations puissent regagner chez eux.
Sur le site à ciel ouvert, des volontaires s'activent pour venir en aide aux femmes et aux enfants. Suntura Wulugem est une infirmière.
Je suis là pour faire les prises en charge des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes.
L'armée malienne basée dans les localités de Badjangara, Djalassagou et Koro se déploie aussi pour rassurer les populations. Et déjà, des résultats sont enregistrés. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Badjangara.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo était ici à Washington la semaine dernière avec une délégation pour rencontrer des responsables américains. Les tensions à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et l'insécurité dans l'est de la RDC étaient au cœur des discussions. À l'approche de l'élection présidentielle en RDC en décembre 2023, les autorités rwandaises s'inquiètent d'un embrasement de la région. Lors de ce déplacement, Mme Makolo a accepté de répondre aux questions de Claire Morin-Gibou de la VOA. Elle revient sur la situation dans l'est de la RDC.
Nous craignons que les 6 prochains mois qui précèdent les élections ne soient le moment d'une nouvelle escalade, ce que nous ne voulons pas. Les dirigeants de la RDC ont décidé d'utiliser le Rwanda comme stratégie de réélection. Et je pense que c'est dangereux pour la région, mais pour nous aussi, c'est une grande menace pour notre sécurité. Tout cela vise à blâmer le Rwanda et à dépeindre le Rwanda comme l'ennemi, comme l'agresseur, afin d'obtenir que le président soit réélu en décembre. C'est une stratégie qui est bien connue dans le monde entier quand vous n'avez rien d'autre à offrir à vos citoyens et rien d'autre pour allier votre peuple. Vous créez un ennemi extérieur. Nous ne voulons pas être ce bouc émissaire de la situation qui prévaut en RDC. Nous ne voulons pas être le bouc émissaire de l'échec de la RDC à instaurer une bonne gouvernance et un contrôle étatique. Je pense que c'est un problème intérieur qui doit être résolu en RDC sans essayer de nous entraîner dans une situation compliquée.
Vous avez également dit qu'il y avait des mercenaires dans la région. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, je veux dire, parmi les choses qui nous préoccupent et dont la communauté internationale doit prendre note, il y a ce qui semble être l'intention du gouvernement de la RDC de perpétuer le conflit et éventuellement de l'aggraver, par exemple en recrutant des mercenaires. Nous le savons, mais ce n'est pas un secret. Il y a plus d'un millier de mercenaires d'Europe, de l'Est, actuellement en RDC, dans l'Est de la RDC, positionnés tout près du quartier général de la MONUSCO, tout près de la frontière guerre avec le Rwanda. Nous savons qu'ils recrutent davantage. C'est un, vous savez, c'est une menace directe pour nous aussi et c'est un problème qui doit être réglé.
Y a-t-il des membres du groupe Wagner?
Non. Ils sont d'une entreprise. C'est une société bien connue qui est enregistrée en Bulgarie. Nous savons qu'elle est dirigée par un Roumain qui est une personne bien connue, qui est impliquée en Afrique depuis longtemps et avec plusieurs nationalités européennes qui font partie des combattants de ce groupe.
Tout le monde s'accorde à dire que votre économie va très bien, que vous combattez la corruption, vous avez comme projet de doubler la zone de libre-échange. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes soient inquiètes de la démocratie, de l'état de la démocratie au Rwanda?
J'aimerais que notre économie se porte aussi bien que notre politique, parce que nous avons pris toutes les bonnes décisions sur le plan politique. Nous sommes aujourd'hui plus unis et plus réconciliés que nous ne l'avons jamais été. Le pays se porte mieux que jamais et je pense que nous sommes en mesure de travailler dur ensemble pour atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés.
This is the voice of America, Washington, D.C.
L'ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable hier de 4 chefs d'accusation d'associations de malfaiteurs en vue d'annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Catherine Gibson qui s'est rendue au palais de justice ici à Washington.
Non coupable, c'est le plaidoyer de l'ancien président Donald Trump hier dans une salle d'audience de Washington, tout près du Capitole, qui a été pris d'assaut le 6 janvier 2021 par des émeutiers qui tentaient d'annuler l'élection présidentielle de 2020. Monsieur Trump a répondu aux accusations portées par un grand jury de citoyens américains sur la base d'une enquête du ministère de la Justice alléguant qu'il a commis un complot contre les institutions américaines, conspiré et fait obstruction à une procédure. Lors d'une conférence de presse après l'audience, l'ancien président a déclaré qu'il avait le droit constitutionnel à la liberté d'expression pour exprimer ses préoccupations concernant une élection.
Il s'agit d'une persécution d'un opposant politique. Cela n'aurait jamais dû se produire en Amérique.
L'ancien vice-président Mike Pence, également candidat à l'investiture républicaine, ne voit pas l'affaire du même œil.
Je veux que le peuple américain sache que je n'avais pas le droit d'annuler l'élection et que ce jour-là, le président Trump m'a demandé de le mettre au-dessus de la Constitution. Mais j'ai choisi la Constitution.
Donald Trump, qui est toujours le favori de l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, n'est pas en état d'arrestation et devra comparaître devant la justice dans les mois à venir. Hélène Karmark, experte en gouvernance à l'institution Brookings.
We're in sort of uncharted territory.
Nous sommes sur un terrain inexploré. Il peut certainement se présenter dès maintenant sous le coup d'une mise en accusation, car il n'a été prouvé coupable de rien. Il vient seulement d'être accusé de crime. Et nous n'aurons probablement pas beaucoup de ces décisions avant l'année prochaine, peut-être même après les élections.
L'ancien président Donald Trump fait également face à des accusations criminelles à New York et en Floride liées à des allégations de fraude électorale et de mauvaise gestion de documents classifiés. Cheryl Bader, professeur de droit à l'université Fordham.
This in some ways is the most serious.
C'est à certains égards le plus grave, car cela touche vraiment le cœur de notre démocratie et la façon dont nous gérons les élections. Mais d'un autre côté, Trump va faire valoir qu'il croyait que c'était vrai, qu'il croyait qu'il avait gagné les élections et donc qu'il ne fraudait pas les États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.